Bien, merci. Donc c'est à moi que revient le plaisir d'ouvrir cette séance des abonnés du Sud au label Exposition d'intérêt national. Donc je vais vous parler je vais m'appuyer pour ça sur une exposition. En fait, on n'a pas eu 2 ans de suite. On a un tous les 2 ans. Voilà, on présente un dossier tous les 2 ans à peu près. Mais c'est vrai qu'on a eu 3 dossiers validés en 5 ans ces dernières années. Donc je vais vous parler d'une exposition qui était la dernière grande exposition que nous avons conçue, qui était l'exposition consacrée à l'ours. Alors bien sûr, une exposition, on peut peut-être passer à la diapo suivante s'il vous plaît. Attends, je vais prendre le truc. Voilà, donc cette exposition temporaire, c'est une exposition, bon, schématiquement une exposition, on le sait tous ici, c'est entre 2 et 3 ans de travail préparatoire avant l'inauguration. Donc c'est le musée de Toulouse, pour vous situer le muséum de Toulouse, c'est le gros musée d'histoire naturelle en région, c'est une équipe de 140 personnes, c'est un budget masse salariale comprise de l'ordre de 8 millions et demi d'euros, c'est un budget de 2 millions d'euros en fonctionnement et entre 500 000 et 1 million d'euros en investissement chaque année. Donc c'est quand même une grosse équipe. Et donc nous travaillons comme tout le monde avec une programmation à 2 à 3 ans qui nous permet donc d'anticiper puis surtout de faire les répartitions budgétaires. Donc l'exposition en quelques chiffres, on a lancé l'opération le 24 janvier 2012, c'est-à-dire on a validé. Et pourquoi on a décidé de faire cette exposition? C'était simple. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a un ours qui a été abattu dans les Pyrénées et qui a fait le tour d'Europe. C'était Canelle, la dernière ours de souche pyrénéenne. Elle a passé plusieurs années dans les congélateurs de l'école vétérinaire de Toulouse. Et le tribunal, une fois que l'affaire a été réglée d'un point de vue judiciaire, a décidé que ce spécimen, pour lequel nous avions bien sûr manifesté un grand intérêt, que ce spécimen viendrait au muséum de Toulouse, où il serait naturalisé. Et donc à partir de là, on s'est dit, on va faire une grande exposition sur l'ours, puisqu'en plus, dans les Pyrénées qui sont juste derrière Toulouse, l'ours, c'est vraiment un sujet extrêmement délicat, extrêmement chaud. Et c'était un des défis de l'exposition que d'arriver à faire une exposition qui présente véritablement les problèmes sans expliquer et sans avoir un discours militant, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc nous avons lancé cette opération en janvier 2012, un coup d'objectif, puisque nous fonctionnons par coup d'objectif sur chaque réalisation que nous développons, un coût d'objectif de 500 000 euros. On a mobilisé en interne 53 agents, 25 entreprises, et nous avons ouvert cette exposition le 11 octobre 2013 jusqu'au 3 août, pardon, 2014. Et nous avons accueilli pour cette exposition 124 000 visiteurs. La fréquentation annuelle du Muséum de Toulouse est stabilisée maintenant au-dessus de 250 000 visiteurs par an. Nous sommes, l'année dernière, nous étions à 297 000 et quelques. Donc on navigue entre 250 et 300 000 visiteurs par an en moyenne. Donc cette exposition a obtenu le label, bien sûr, dans les partenariats. Et pour le financement de cette exposition, on a eu donc l'aide financière du label, qui était de 15 000 euros, et un partenariat avec l'ADREAL, la direction de l'environnement, puisque vous savez qu'il y a aussi un plan ours qui est porté par la direction de l'environnement, qui nous avait accordé une aide de 40 000 euros. Derrière, pour nous, nous avons lancé grâce à ça une dynamique d'enrichissement des collections, puisque tous les ours qui sont morts dans les Pyrénées ces dernières années finissent leur jour, disons, au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, donc Franska, Palouma, Pyropolen, en fait, tous les ours introduits ou non, de souches pyrénéennes initiales ou non, les slovènes, les non-slovènes, les moitiés slovènes et autres, sont venus enrichir le fonds des collections du Muséum de Toulouse. Et puis, bon, le choix que nous avons fait, c'est de travailler avec des équipes, avec des gens de renom. Hein. Nous essayons toujours d'avoir ou des parrains, ou des membres du comité scientifique, ou des entreprises de scénographie avec lesquelles nous travaillons, qui sont des gens de renom. Donc, par exemple, pour cette exposition, c'était l'agence Nathalie Crinière à Paris qui a assuré la scénographie. On avait travaillé avec Jean-Christophe Victor pour Arte, puisque nous avons monté un partenariat pour un numéro spécial du Dessous des cartes consacré à l'ours. Boris Cyrulnik qui a accepté d'être le parrain de l'exposition. Bref, toute une série de partenaires. Et le public que nous avions ciblé, c'était les familles avec les jeunes enfants. Alors, vous voyez ici une représentation schématique de notre salle d'exposition qui, vous le voyez, est très très mal fichue. C'est peut-être parce qu'on est dans un muséum d'histoire naturelle. Vous voyez, elle a une forme en cuisse de poulet, un petit peu. Voilà. Et avec des difficultés concrètes, hein, de montage d'exposition, puisque on a un certain nombre de poteaux un petit peu partout dans la salle qui compliquent les choses. Et puis l'entrée fait qu'on arrive à peu près au milieu de la salle. Donc c'est pas forcément facile de scénariser quelque chose dans un espace comme celui-ci qui mesure 370 mètres carrés. Donc nous avons essayé de construire un parcours d'exposition qui partait depuis la représentation mythique que l'on a de l'ours. L'ours est présent dans nombre de mythologies, dans nombre de contes, dans nombre de récits. En passant bien sûr par donc, cette approche mythique s'est développée dans la première partie de l'exposition ici. Puis comme nous sommes un musée d'histoire naturelle, nous avons parlé de la réalité, c'est-à-dire de la biologie, qu'est-ce que c'est que l'ours, la réalité de l'ours. Et nous avions présents là les représentants des 8 espèces d'ours que l'on connaît actuellement à la surface de la planète, avec en particulier un prêt important du Muséum de Paris qui nous avait prêté Yen Yen. Vous connaissez Yen Yen? C'est le panda qui a été offert à la France par Mao Tse-Tung. Il a été offert à la France par Mao Tse-Tung et il est célèbre pour avoir failli manger Giscard d'Estaing. Voilà. Peut-être avait-il reconnu dans Giscard un grand chasseur, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Bref. Donc nous étions donc sur la réalité de l'ours, où on évoquait à la fois donc les problèmes de l'hibernation, le cycle de vie de l'ours, le développement de l'ours, les adaptations aux différents régimes alimentaires, enfin bref, toutes ces questions-là. Et puis raconter aussi cette relation extrêmement ambiguë qu'il y a entre l'homme et l'ours, puisque l'ours est souvent considéré dans nombre de mythologies comme une sorte de double sauvage de l'homme. Et donc on a raconté un petit peu toute cette histoire qui faisait que l'ours, qui était un animal sacré, extrêmement noble, qui était d'ailleurs le roi des animaux, hein, jusqu'aux périodes médiévales où il a été remplacé sous l'influence de saint Thomas par le lion. Donc on raconte toute cette histoire et on montre comment cet animal qui était au début un animal de prestige, que l'on retrouve dans l'héraldique, dans nombre de villes qui ont pris l'ours comme emblème, comment petit à petit on est arrivé sous l'influence de saint Thomas à le chasser, à l'éradiquer, à le ridiculiser à travers les montreurs d'ours, à le dresser, à le ridiculiser. Et puis maintenant, où on rentre de nouveau dans une sorte de réhabilitation de cette espèce, comme, notamment au niveau français en tout cas, comme un animal emblématique de la survie de la grande faune sauvage à travers le territoire national. Et donc se poser dans la dernière partie, dans l'avant-dernière partie de cette exposition, la question du vivre ensemble, pour laquelle donc nous avions négocié ce partenariat avec l'ADREAL, puisqu'aujourd'hui, la question de l'ours pose en fait la question du rapport de l'homme à l'animal. C'est-à-dire, vu de Paris ou de Toulouse, pas de problème pour qu'il y ait des ours dans les Pyrénées. Quand vous êtes berger dans les Pyrénées, un ours, c'est beaucoup plus problématique. Donc ces questions-là posent véritablement une question de société, c'est-à-dire, quel choix collectif faisons-nous et jusqu'où acceptons-nous d'avoir une nature sauvage à notre porte ? On le voit, moi, l'autre jour je lisais dans le journal, les gens étaient terrorisés parce que les loups s'approchaient de Paris. Ben oui, les loups s'approchent de Paris, mais Reggiani l'a chanté depuis longtemps. Hein, mais donc c'est comment et jusqu'à quel point l'homme est capable d'accepter une cohabitation avec une grande faune sauvage, qui est bien sûr, et notamment en particulier avec les grands prédateurs. Et pour finir, donc, nous évoquions le côté animal miroir de l'ours, puisque nombre d'attitudes de l'ours font qu'il a des attitudes qui sont extrêmement humaines. La femelle de l'ours, par exemple, allaite ses petits en position assise et elle les met au sein, comme une maman. Donc il y a plein d'analogies, si vous voulez, comportementales entre l'ours et l'homme qui font que, justement, c'est ce qui a nourri tout cet imaginaire. Donc pour vous montrer quelques images de l'exposition, voici quelques images. Donc ici, c'était la partie consacrée au mythe. Dans cette partie-là, c'était la première partie de l'exposition où on découvrait le mythe, les différents mythes. Mythes qui n'étaient pas que les mythes français. En France, on connaît dans les Pyrénées la légende de Jean de l'Ours, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a chez les Aïnous, il y en a au Canada, il y en a en Russie, il y en a un petit peu partout. Donc on a évoqué ces choses-là. Et bien sûr, on a raconté des contes, on a lu des contes dans les langues originelles et avec des multimédias qui permettaient aux gens de l'avoir en français ou enfin en multilingue pour que chacun puisse découvrir ces contes-là que l'on entendait dans leur langue originelle, dans la langue qui était celle du visiteur de l'exposition. On évoquait le mythe de la grande ours chez les Navarros, enfin bref, toutes ces mythologies qui font intervenir l'ours. Puis ensuite, nous étions dans la deuxième partie de l'exposition ici, qui est la partie donc la réalité de l'ours, avec, vous le voyez, donc une partie des espèces d'ours présentes à la surface de la planète, avec l'ours des cocotiers, qui est le balou du livre de la jungle, et ainsi de suite. Puis ensuite, nous avons abordé donc une autre partie qui était donc la question de la gestion de l'ours, avec les problèmes que ça pose concrètement dans les Pyrénées aujourd'hui, hein, puisque dans les Pyrénées aujourd'hui, ce qui est assez paradoxal, l'ours était présent depuis toujours dans le Béarn. Dans le Béarn, l'ours est toujours présent. Aujourd'hui, il ne reste plus que deux individus dans le Béarn, deux mâles. Donc, on peut considérer que le noyau béarnais est en train de s'éteindre complètement. Et Canel, qui était dans le Béarn, est donc la dernière ourse pyrénéenne qui a été tuée. Il reste son fils et un autre. Par contre, on a eu en France une grosse politique de réintroduction d'ours dans les Pyrénées, et on les a réintroduits, alors là encore, hein, pour des raisons politiques et autres, le choix s'est porté sur une zone d'où l'ours venait de disparaître. Il avait disparu dans les années 80-90. Les derniers ours qui vivaient dans la partie sud de la Haute-Garonne avaient été tués, et c'est là qu'on a réintroduit les ours. Et aujourd'hui, paradoxalement, le noyau où originel est en train de disparaître complètement puisqu'il ne reste plus que deux mâles. Par contre, dans la partie réintroduite, là, il y a une dynamique qui s'est créée. Aujourd'hui, on a 25 ou 26 ours qui évoluent entre le sud de la Haute-Garonne, l'Ariège et de l'autre côté de la frontière, le Val d'Aran. Donc, on voit bien aussi les problèmes que ça pose puisqu'on a réintroduit un ours dans une zone où il n'était plus. Et on comprend donc du coup tous les problèmes de société que ça pose, tous les problèmes de, je veux dire, d'acceptation ou de refus. Et on voit par contre s'éteindre, donc cette carte était là. Et pour expliquer tout ça de manière un peu plus ludique et sympathique et pour poser la problématique, nous avions donc monté avec Arte un gros partenariat. Jean-Christophe Victor était venu, donc on a fait une émission spéciale, Le Dessous des Cartes, consacrée à la problématique de l'ours. Bien sûr, pas ciblée uniquement sur les Pyrénées, mais la problématique de l'ours au niveau mondial. Comment gère-t-on les populations d'ours ailleurs? Et donc ça a confronté aussi toutes les pratiques qui sont en cours, par exemple en Slovénie. D'où viennent les ours qui sont réintroduits dans les Pyrénées? On évoquait aussi la question pourquoi des ours slovènes? Parce que oui, vous vous rendez compte, on nous met des Slovènes alors qu'il y en a en Espagne. Bon, on leur a expliqué que génétiquement, la différence entre un ours slovène et un ours pyrénéen, c'était à peu près la même différence qu'il peut y avoir entre un habitant de Albi et un habitant de Castres. Donc tout de suite, ça permettait de relativiser les choses. Ou on pourrait dire, puisqu'on est à Paris, on pourrait dire entre un habitant de Paris et un habitant de Montreuil, quoi. Disons-le comme ça. Donc, vous voyez que toutes ces problématiques-là posent véritablement la question de comment on accepte de gérer. Donc, cette émission a été diffusée à plusieurs reprises sur Arte. Voilà. Et bien sûr, pour l'occasion, nous avons naturalisé Canel, qui était l'ours, donc un peu la star de cette exposition, et d'ailleurs ça nous a permis tout le temps de la préparation de l'exposition de faire monter la sauce un petit peu avec les journalistes. Que devient Canel? Est-ce qu'on va pouvoir la naturaliser? Mais quand vous voyez une naturalisation comme celle-ci, déjà deux choses. D'abord, on a développé pour cet animal une technique nouvelle de naturalisation qui a été développée par nos équipes dans nos ateliers avec des matériaux qui n'étaient pas les matériaux traditionnels qui sont en général. Traditionnellement, on naturalisait plutôt avec de la fibre de bois et autres. Bon, maintenant, on est passé aux mousses polyuréthane et autres. Mais aujourd'hui, ces mousses, on les connaît pas en termes de comportement, en termes de conservation. Et donc, on a utilisé, là, on a travaillé véritablement avec des mousses polyéthylènes pour lesquelles il a fallu mettre au point de nouvelles techniques pour les assembler, pour les coller, pour essayer de faire en sorte que ce spécimen, qui d'emblée était patrimonial, puisque c'est le dernier, donc il n'y en aura pas d'autres. Le dernier ours des Pyrénées, il n'y en a qu'un. Donc on n'avait pas droit à l'erreur dans la naturalisation. Donc déjà, dans le choix des matériaux, ça a été assez long de choisir les matériaux avec l'équipe de taxidermie, de mettre au point les techniques qu'on a testées d'abord sur tout un tas d'autres petits animaux, et puis également de choisir la position de l'ours, parce que la position n'est pas neutre, elle est parfaitement symbolique. Certains membres de l'équipe voulaient que, par exemple, on naturalise Canel dans la position où elle était tuée, sur le flanc, avec du sang qui s'écoulait. Voilà, on pouvait imaginer ça. On pouvait imaginer de la mettre en position extrêmement agressive, hein, sur les pattes arrière, menaçante. Voilà. Donc, le choix de la position n'est pas neutre. Et pour pouvoir aboutir à la position que vous avez ici, où on la voit en fait en train de se déplacer, tout simplement, un petit peu surprise, elle relève la patte, elle tourne la tête, donc elle est légèrement en alerte. Eh bien, on a réuni là encore un comité scientifique avec des spécialistes de l'éthologie de l'ours, du comportement de l'ours, un philosophe, un historien, pour véritablement arriver à définir ensemble une position qui soit, voilà, acceptée par tous et qui est à la fois, je veux dire, un choix qu'on peut nous reprocher, mais qu'on assumera parfaitement. Et puis la dernière partie, qui était en fait composée avec des grandes images denticulaires, ici, où c'était le parallèle entre l'homme et l'ours. Et donc là, vous avez une femelle ours qui est en train d'allaiter son petit. Et c'est quand vous vous déplaciez avec ces images denticulaires, il y avait une maman exactement à la même taille et dans la même position. Donc voilà quelques vues de cette exposition. Mais venons. Et dans le choix que nous avons fait aussi, l'idée était de se dire, voilà, dans la politique que l'on mène pour nos expositions, on les rend itinérantes. Notre salle d'expo, je vous l'ai dit, fait 370 mètres carrés. On a un autre espace au-dessus, qui fait à peu près 80 mètres carrés, qui nous permet de développer des modules complémentaires. Parce qu'on ne peut pas tout dire dans une exposition. Vous savez, une exposition, c'est quelque chose que vous le savez tous. Hein. On travaille au sécateur, en fait, à chaque fois. Au début, on a plein d'idées. Puis après, toute l'idée, ça consiste à tailler là-dedans pour arriver à sortir quelque chose qui soit le plus cohérent possible, dans lequel on ait un discours, une muséographie. Enfin, il faut que tout fonctionne bien, mais ça, vous le savez. Mais par contre, il y avait un point que l'on n'abordait pas, qui pour nous était intéressant, c'était la problématique de l'ours blanc. Qui aujourd'hui, notamment dans les cultures inuites, ce rapport à l'ours est en train de se modifier complètement et les grands bouleversements climatiques que l'on connaît à l'heure actuelle sont en train de mettre en péril tout un mode de vie et toute une structure sociale. Donc on évoquait ça aussi dans un module complémentaire. L'intérêt des modules complémentaires que l'on a, c'est aussi que nos expositions sont en général conçues pour pouvoir être itinérables, c'est-à-dire pour pouvoir aller ailleurs éventuellement. Et donc l'idée de faire des modules complémentaires aussi permet de moduler comme ça la taille de l'exposition qu'on peut proposer aux autres équipements. Donc là, en rajoutant une centaine de mètres carrés, on aboutissait à une exposition de l'ordre de 500 mètres carrés qui la fait rentrer dans les expositions qui peuvent aller dans les grands équipements. Donc l'idée, c'est véritablement, chaque fois qu'on bâtit l'exposition, d'avoir des modules qui vont pouvoir l'implémenter si toutefois un établissement manifeste son intérêt pour l'accueillir. Donc une partie consacrée à l'ours inuit avec un partenariat qui avait été mené d'ailleurs avec la Galerie d'art inuit de Paris. Alors ce label d'exposition d'intérêt national, il faut le déposer tôt, il faut le déposer assez tôt et c'est un travail. Faut pas, quand on dit il y a des professionnels, oui, il y a des professionnels du dossier, parce que le dossier est quand même assez conséquent à remplir. Et pour nous, on a une étape label, c'est-à-dire que quand on monte une exposition, on sait, au moment de la définition de l'exposition, on a une étape, on a un moment pendant lequel on va travailler le dossier. C'est le moment où on va concevoir l'exposition et puis tout ce qui va aller avec. C'est le moment où on va concevoir l'exposition, la programmation culturelle qui va fonctionner avec. Et c'est donc à ce moment-là, si vous voulez, l'étape du dossier, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle nous oblige à déjà bien anticiper et avoir un projet qui soit bien tricoté, qui soit extrêmement cohérent. On ne fait pas n'importe quelle programmation avec n'importe quelle exposition. Et comme dans les critères du label, il y a l'articulation, la pertinence des choix, les cibles de public et autres, ça oblige véritablement cette étape label à avoir une réflexion approfondie sur ce que va être l'exposition, la façon dont on va la conduire l'exposition elle-même, mais conduire également toute la programmation culturelle qui va être bâtie autour de ce projet d'exposition. Donc là, vous avez par exemple un calendrier de l'exposition. Vous voyez, elle a commencé en 2012, elle a ouvert ici en 2013, et puis vous avez toutes les phases de préparation de l'exposition. Et si vous vous rendez compte que c'est au moment où on avait terminé la programmation muséographique que l'on a déposé le label pour entrer ensuite dans les études de projet un peu plus approfondies et passer par les différentes phases de conception de l'exposition avec un choix de scénographe. On se rend compte que le choix du scénographe était effectué aussi au moment où on a déposé le label. Donc on savait avec qui on allait travailler. Donc on pouvait comme ça déjà avoir un certain nombre de représentations, d'images qui permettent aussi de voir ce que va être l'exposition. Et puis ensuite, l'exposition suit son cours habituel avec les différentes phases, APS, APD, les pros, les consultations des entreprises, et ainsi de suite. Alors, dans les critères, effectivement, il y a la qualité du propos scientifique de l'exposition. Et ça, c'est vrai que ce n'était pas forcément facile à appréhender. Et donc, pour chaque exposition, on crée un comité scientifique ad hoc. Même si on a, nous, des compétences en interne, dans nos équipes, sur les sujets, on essaye tout le temps d'élargir les compétences en créant un comité scientifique. Et donc là, sous le parrainage de Boris Cyrulnik, qui s'est prêté au jeu, qui est venu, qui a participé, qui a même été filmé, il y avait tout un travail qui a été fait avec lui. Et en commissariat scientifique, Dominique Armand, qui est une spécialiste de l'ours, qui travaille à Bordeaux. Et puis, vous le voyez, un comité scientifique qui est associé à la fois des gens de la direction régionale de l'environnement, c'est-à-dire les gens de l'équipe ours, c'est-à-dire ceux qui connaissent le mieux la question de l'ours en France, mais également aussi le consul honoraire de Slovénie. Et là, vous vous doutez bien que c'était aussi pour des questions de stratégie et de positionnement politique. Hein, il était important de l'avoir. Et puis, donc, des personnes de l'équipe du Muséum de Toulouse. Dans les critères aussi, je crois que ce qu'il faut essayer d'avoir dans une exposition, en tout cas pour nous, exposition scientifique, c'est une diversité de médias et des collections. Bien évidemment, nous sommes un établissement patrimonial, nous gérons des collections, nous ne sommes pas un centre de sciences qui n'a pas de collection, mais il faut arriver à trouver de bons équilibres pour arriver à faire passer les discours, puisque l'objet n'est, on n'est pas dans une contemplation et on a un certain nombre de messages à faire passer qui ne sont pas forcément évidents. Et donc l'idée, c'est de trouver des équilibres. Donc vous voyez un petit peu sur le camembert qui est là, le type de répartition des supports médias, hors graphisme bien évidemment, hein. Mais vous voyez 6% de son, pas mal de manip, 47%, 25% de vidéos et puis des multimédias interactifs. Donc vous avez par exemple ici. Donc vous voyez là par exemple une projection qui était en fait les fêtes de l'ours. Hein, vous savez que dans les Pyrénées, notamment à Prat-des-Mauges, chaque année il y a une grande fête de l'ours qui justement est assez symbolique de. Je ne sais pas si vous connaissez cette fête de l'ours. Dans le village, il y a des hommes qui sont lâchés, déguisés en ours, qui vont attaquer les jeunes femmes, ils les barbouillent de noir. Et il y a des chasseurs qui viennent les récupérer, qui les malmènent. Et symboliquement, on rase l'ours, c'est-à-dire on lui enlève sa peau d'ours, pour refaire de lui un homme. Donc on voit bien aussi tout ce côté mythique, hein, mythologique. Donc c'est encore très présent dans la culture pyrénéenne. Donc on avait évoqué ça à travers des multimédias. Et puis vous voyez ici, on avait fait en fait un petit, mince, j'ai perdu le nom, un petit truc à effet stroboscopique qui permettait de montrer comment on avait ridiculisé l'ours en lui faisant jouer du tambour, danser sur place. Donc on voyait l'ours. Ça c'était un truc qui a très très bien marché avec les enfants. Les enfants adoraient ça. Pareil dans les collections, donc on a à la fois valorisé le fonds patrimonial des collections du muséum et puis on a aussi réalisé hein, des montages ostéologiques. Vous avez ici un montage ostéologique que nous avons réalisé de papillon. Papillon qui était lui le dernier mâle de souche pyrénéenne. Donc on a le dernier mâle sous forme squelette et on a la dernière femelle que nous avons naturalisée, donc cannelle, cannelle qui est ici. Voilà. Et puis, bien sûr, après les spécimens que nous avions déjà. Et puis, nous avons complété cette exposition avec des prêts hein, qui nous ont été consentis par le Muséum national, le musée de Bourges, le musée d'Orléans, le musée de Bordeaux. Bref, nos collègues des autres musées nous ont consenti un certain nombre de prêts qui nous ont permis d'avoir comme ça une diversité de spécimens à présenter. Donc, parmi les partenariats, donc un partenariat, voilà, on avait imaginé donc avec Arte de faire un numéro spécial du dessous des cartes. Donc, avec trois focus territoriaux que nous avions imaginés, le Grand Nord canadien où là une population d'ours polaires qui est supérieure à la population humaine. Donc, le cas de la Slovénie où il y a beaucoup d'ours bruns, mais où ça pose pas manifestement de problème parce que les structures d'élevage sont différentes de celles que l'on a dans les Pyrénées. Et puis, bien sûr, comme nous étions au pied des Pyrénées, quand même un focus sur la situation pyrénéenne où quand même, c'est pas avec nos 23 ou 25 courses actuelles que, voilà, on va s'en sortir facilement. Par contre, on expliquait très bien aussi que la population d'ours bruns n'est pas une espèce en danger. Quand on dit qu'il faut garder l'ours des Pyrénées parce que l'espèce est en danger, non, ce n'est pas vrai. C'est un ours brun. La population d'ours bruns en Europe est largement répandue. Et aujourd'hui, ce n'est pas une population menacée, même si effectivement la question de la conservation de ces grands prédateurs se pose de manière internationale. Donc ensuite, on a monté des partenariats avec les télévisions régionales. Vous avez là ici Jean-Jacques Camara, qui est un des acteurs du suivi de l'ours, qui suit l'ours au quotidien, je dirais quasiment dans les Pyrénées. Et puis à côté de ça, on a bâti toute une programmation culturelle. Donc à la fois par les fonctionnements que nous avons en interne, je dirais, à la collectivité Ville de Toulouse, nous avons monté une exposition avec nos collègues du centre Croix-Baragnon qui s'appelait L'ours, objet de convoitise, avec des œuvres de Castelbajac, une installation qui a été conçue spécialement à cet effet. Nous avons monté aussi un concours littéraire, qui était donc dans la peau d'un ours. Donc un concours, nous sommes très présents sur les réseaux. Donc sur les réseaux sociaux, on fait des concours de nouvelles que l'on annonce. Et pour ce concours-là, on a eu des nouvelles qui arrivaient donc de Chine, d'Algérie, du Brésil. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc on a monté un concours de nouvelles. Et on a aussi créé, bien évidemment, un certain nombre d'événements, notamment pour le Mardi Gras, au moment de la fête de l'ours. Ben voilà, on a créé, avec des compagnies locales, un certain nombre d'activités, mets-toi dans la peau de l'ours. On a organisé des danses sardanes qui sont typiques du Roussillon, de Prades-des-Moyaux, dans la région où on a la fête de l'ours, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, toute une programmation culturelle assez diversifiée qui sort complètement, je dirais, de ce que l'on attend dans un musée d'histoire naturelle, mais qui est aussi une des marques de fabrique du Muséum de Toulouse. On essaie systématiquement de ne pas faire que de l'histoire naturelle au sens strict du terme. Et bien sûr, aussi toute une saison culturelle en termes de programmation, avec donc des programmes spécifiques pendant les vacances, mais également tout au long de l'année, un cycle de conférences qui a permis d'aborder l'ours sous toutes ses facettes. Depuis quelle place pour l'ours dans une société moderne, la question des prédateurs, comment par exemple les fêtes de l'ours tout autour de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique, les histoires de chamanisme, le miroir de la colonisation. Bref, on essaye véritablement de développer comme ça toute une série de thématiques qui vont nourrir toute la saison autour de l'exposition qui est je dirais, le point d'ancrage de la saison culturelle de l'équipement. Donc en termes de retombées, là, comme vous le disiez, c'est très difficile de savoir si le label exposition d'intérêt national amène davantage de visiteurs. Une chose est sûre, c'est que lorsque l'on a le label, et c'est quand même une retombée extrêmement importante, nos tutelles nous écoutent beaucoup mieux. Et je crois que c'est surtout ça, un des grands intérêts du label, nos tutelles sont très attentives au fait que l'on a effectivement ou pas un label, parce que pour eux, c'est une garantie de qualité. Le public, la presse aussi est sensible, elle le relaye régulièrement, hein. D'ailleurs, on le leur dit à chaque fois, on a le label Expo d'intérêt national. Et c'est vrai que, en tout cas pour Toulouse, ce que je peux dire, c'est que la presse régionale aime bien savoir que en région, on a des expositions. Pour celle-là, mais je pense à l'exposition Caravage du musée des Augustins ou autre, où il y a un label exposition d'intérêt national, tout de suite, ça attire l'attention et surtout, ça permet aux directeurs d'équipement qui sont toujours en train de se battre, vous le savez, pour obtenir des budgets, mais ça leur donne quelques atouts supplémentaires. Et en ça, déjà, c'est une énorme retombée du label exposition d'intérêt national. Voilà.